Vous écoutez Bienfait pour vous sur Europe 1, on vous accompagne jusqu'à midi, nous sommes en direct. Alors comme chaque matin, c'est lui qui va débuter notre magazine avec les petites recherches qu'il a effectuées avec grand sérieux sur notre thème du jour. Clément Lanoux, bonjour.
Bonjour.
Métier, non pas poisson comme disait Mélanie, mais le métier poisson. Non, poison.
Poisson.
Elle fait
passion,
la maline.
Passion.
Bah,
bravo,
fait pour
tu
vous,
fais
vous,
le malin, tombe dans le ravin. Aujourd'hui, on va parler des métiers passion. Alors évidemment, on conseille à tout le monde de vivre de sa passion, c'est extraordinaire, quel que soit le nombre d'années. Seulement, voilà, j'imagine déjà derrière le poste, là, vous nous dites, oui, mais encore faut-il avoir une passion. Moi, j'ai pas de passion, donc je vais faire quoi? Je vais bosser où? Alors, rassurez-vous, aujourd'hui, je vais pas faire une chronique drôle. Non, j'ai décidé de bosser pour vous. J'ai enquêté. J'ai pris les métiers que j'ai trouvés les plus insolites, sympas, qui nécessitent aucun diplôme et que vous pouvez faire dès demain. J'en ai répertorié 8. Le premier, il me plairait énormément. Plongeur, ramasseur de balles de golf. Il y a énormément de golf dans le monde, dans des endroits incroyables.
Ah ouais.
Ils cherchent des personnes pour redescendre. Vous savez, quand on se loupe au golf et que ça part dans la petite mare, eh ben, faut aller chercher. Ah ben, vous plongez. Donc, faut juste
et
avoir un maillot
ça,
de bain.
Là, c'est un métier poisson. Hein,
ah,
pour
mais j'ai regardé, il y a des offres à Cuba, il y a des offres un peu partout. Vous pouvez voyager. C'est plutôt bien payé. Deuxième, si vous aimez les acrobaties, si vous aimez l'escalade et que vos parents vous ont toujours dit non, mais l'escalade, c'est pas un métier, tu vas pas faire champion, détrompez-vous. Nettoyeur d'écran de cinéma, 4000 euros par mois. J'ai trouvé des postes actuellement. Alors, c'est bien payé. Parce qu'en fait, il ne faut pas avoir le vertige. Effectivement, il y a des techniques bien spécifiques qui s'apprennent. Et il faut bosser de nuit, hein, souvent quand les cinémas sont fermés. Du coup, autre chose plus simple, plus abordable, vous allez vous dire, ah, Burke, et pourtant, testeur de nourriture pour animaux.
Oh non, dégueu.
On croit ça, et puis quand on nous dit bah, 40 000 euros par an, pourquoi pas, finalement. Et puis quand on vous assure que finalement, c'est de la pâté, c'est la même chose, c'est le marketing. Si on vous l'avait servi, on vous disant que c'était du pâté qui venait du sud de la France, qui avait été fait,
jamais
peut-être que certains l'auraient mangé. Autre, alors celui-là, je l'affectionne particulièrement, c'est Crémeur. Crémeur, c'est la ville des Sables d'Olonne. Donc en tant que Vendéen, évidemment,
qui avait lancé
ça, il faut crémer des gens. Pour faire venir des gens.
Mais
sur
la crème solaire.
La crème solaire, tout un été, ils avaient fait ça. Vous vous baladez, quelqu'un vous dit, s'il vous plaît, je peux avoir un petit peu de crème parce que je suis tout seul sur la plage. La personne arrive. Ça a été fait, c'était l'été 2010
rapporte,
et ça a cartonné. Sur l'été, 5000 euros par mois pour les personnes qui peuvent conseiller les vacanciers.
Ouais, enfin, moi, j'ai pas envie de crémer grand monde. Hein.
Bah, non, mais j'ai pas envie qu'on me crème non plus, un inconnu. Non, mais franchement.
Alors, si vous rêvez d'être espion, mais que vous avez vu le bureau des légendes et vous dites, ah, trop d'années d'études, et puis déjà avec mon Facebook, je suis cramé d'avance, il y a client mystère. Si vous avez un compte, vous pouvez aller voir un petit peu, vous pouvez jouer à l'espion et ça c'est bien. On a également, alors ça j'ai appris un métier, il n'y en a qu'un seul en France, feutier, vous savez ce que c'est ou pas?
Feutier. C'est quand on fait le feu, non?
Pas loin, oui.
On allume les cheminées des gens?
Pas les cierges, c'est à Lourdes, c'est la personne qui est chargée de guetter les cierges.
Donc si
il remet le stock, il s'assure que tout va bien, que
combien,
ça ne prenne pas feu.
Combien feutier?
Alors il y a un feutier, mais il n'a pas voulu me donner son salaire. Et puis j'en ai trouvé deux derniers, il y a goûteur d'eau, les grandes marques d'eau en France cherchent des goûteurs à chaque fois pour être sûr que ça va bien, donc de temps en temps. Vous vous posez, vous prenez un verre d'eau. Est-ce que c'est pas la meilleure vie finalement? Vive d'amour, d'eau fraîche et de salaire. Et puis dernier, je vais le tenter celui-là. J'ai rendez-vous dans 5 minutes d'ailleurs pour le tenter. C'est testeur de toboggan. Aucun diplôme requis, il faut juste un maillot de bain là aussi. Dans le monde entier, il y a des parcs d'attractions et aquatiques qui cherchent à avoir le bon virage, la bonne vitesse et tout. Et il faut bien des personnes pour le tester.
Je vois tellement testeur de toboggan.
J'y vais. Je vous abandonne, je dois y aller, je dois aller tester justement un looping.
Eh bien, merci beaucoup Clément Lanoux pour cette intro. Maintenant, je vais présenter nos invités pour en parler justement de ces métiers passion plus sérieusement. Je commence par vous, Anne-Claire Gentialon. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste et autrice de Le piège du métier passion aux éditions Alizio. Et puis avec nous également ce matin, Fabienne Broucaré, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes conférencière, créatrice et rédactrice en chef du site My Happy Job. Alors Anne-Claire, on va commencer avec vous. Vous utilisez l'expression dans le titre de votre livre du métier passion. Mais c'est quoi au juste un métier passion?
Un métier passion, ça va être un métier qu'on aime, qu'on va plus qu'aimer, pour lequel, comme vous disiez tout à l'heure, on va se consumer parce qu'en fait, il contient en lui-même la promesse de se réaliser professionnellement et même au-delà, personnellement. On va, et puis, on va avoir la chance d'exercer un métier et donc d'avoir le sentiment de ne pas travailler.
Oui, c'est ça.
Anne-Claire, vous, votre métier passion, c'était d'être journaliste depuis toute petite. Hein, vous aviez ce rêve-là. Comment vous l'imaginiez, ce métier passion, avec vos yeux d'enfant?
Avec mes yeux d'enfant, en fait, j'étais abonnée à des tas de publications jeunesse. J'aime lire et notamment Astrapi. Et j'ai un souvenir assez vivace d'un dossier où Astrapi nous racontait comment était confectionné le journal. Et ça m'avait
fascinée.
Et puis surtout, moi j'étais très bavarde et je me rendais compte que les journalistes, ils pouvaient parler à tout le monde.
Et ça vous plaisait bien?
Ah, ça me plaisait. Puisque De temps en temps, j'étais au coin parce que je parlais trop. Donc, ça m'intéressait. Et puis, tout le monde pour avoir recueillir des histoires un peu extraordinaires. Donc,
c'était pour vous. Fabienne Broucaré, vous avez donc fondé My Happy Job, un site internet qui donne des conseils pour être épanoui au travail. Le métier passion, c'est toujours quelque chose qui fait rêver de nos jours les actifs, les jeunes. Ça reste le Graal professionnel ?
Oui, parce qu'on l'a constaté depuis la crise du Covid, il y a une quête de sens au travail. On a envie d'être utile, on a envie d'avoir un travail qui fait sens, qui correspond à nos valeurs, à nos envies. Encore plus, alors oui, pour les jeunes, on voit de plus en plus aussi de reconversions très tôt, des personnes qui ont fait des études et qui se rendent compte au bout de leur première expérience professionnelle que ça ne leur convient pas, donc ils se reconvertissent à 27, 28, 29 ans. Mais il n'y a pas d'âge, c'est ça aussi qui est chouette, c'est-à-dire que je pense qu'on peut avoir un métier passion, et pourquoi pas plusieurs, soyons fous, dans une vie aussi. Il ne faut pas se poser de limites, et oui, c'est quelque chose que les gens recherchent, avec des limites aussi, parce que y a aussi, on a envie de mieux concilier sa vie pro, sa vie perso, il n'y a pas que le travail dans la vie. Oui, les gens, en tout cas, on le voit dans les mouvements, dans la fameuse grande démission qu'il y a en ce moment en France, et pas que en France, mais en tout cas, c'est quand même un mouvement un peu de fond.
Merci à vous de vous rester avec nous. On va continuer cette mise au point sur ce qu'est déjà un métier passion. Est-on obligé d'en avoir un d'ailleurs ? C'est vrai qu'après tout, il y a des gens qui ne mettent pas le travail, l'accomplissement professionnel au cœur de leur vie. Bon, en tout cas, comment éviter qu'un métier passion devienne un métier poison ? On vous dit tout dans un instant sur Europe 1.
Ah non, on peut faire de vieux os quand même au boulot si on aime son boulot, Mélanie. Vous écoutez Bien fait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre. C'est tous les matins sur Europe 1 jusqu'à midi. Et on vous explique comment identifier votre métier passion ce matin. Et on vous met aussi en garde en même temps comment éviter qu'il se transforme en métier poison. Cet éclairage, on le fait grâce à la journaliste Anne-Claire Gentialon qui vient de publier ce livre Le piège du métier passion aux éditions Alizio. Et ainsi qu'avec Fabienne Broucaré, conférencière, créatrice du site My Happy Job. Alors Fabienne, est-ce que c'est fréquent de trop idéaliser finalement un travail, un métier qu'on a envie de faire depuis tout petit, une vocation ? On se dit forcément que ça va être le meilleur métier du monde.
Oui, on en rêve, surtout si on en rêve depuis tout petit. C'est-à-dire que c'était super intéressant la vision d'enfant. C'est-à-dire qu'on a la vision des bonnes choses, du bon côté. Après, c'est vrai que quand on a la réalité et les évolutions des métiers aussi, c'est ça qui est important. Hein. C'est que le métier qu'on exerçait il y a 10 ans est bouleversé par les technologies, des formes peut-être de management différents, une évolution du marché. Donc, le métier qu'on exerçait il y a 10 ans n'est plus le même aujourd'hui. Donc, il y a des désillusions peut-être au fur et à mesure. Et il faut savoir se réajuster ou en changer. Mais voilà, il n'y a pas que du négatif non plus. Il y a des gens qui rêvaient de faire carrière dans un domaine petit et qui ont été agréablement surpris, qui sont heureux. Donc, il y a de tout.
Alors justement, pour illustrer tout ça, on a été vous sonder dans la rue sur ce sujet du métier passion. On écoute tout de suite le micro-trottoir de Juliette Lavaux.
Alors, qu'est-ce que vous exercez comme métier actuellement ?
Je suis directeur du Café Rue Montargueil.
Et est-ce que pour vous, c'est un métier passion ?
Ouais, je pense que travailler, ça prend beaucoup de temps de notre vie. Et ne pas être passionné par son travail, c'est dommage.
Au-delà du fait que je suis un gros fan de mon travail, je suis passionné d'où je travaille, donc forcément c'est pas compliqué. Pour pas dire la marque, je travaille dans un grand parc avec des grandes oreilles. Voilà. Mais bien sûr que c'est la passion avant tout.
Et qu'est-ce que c'est pour vous finalement un métier passion ?
Moi le matin quand je me lève, j'ai le sourire. Au-delà de la passion de travailler dans ce parc, c'est aussi la passion de donner le sourire aux gens.
Moi tout de suite je pense plutôt à la partie artistique où vraiment où rien d'autre n'a d'importance, ni la paye, ni toutes les heures passées sont chronométrées. C'est vivre pour son art.
Mais alors jusqu'où on est prêt à aller pour vivre de sa passion ?
À partir du moment où on est passionné, ça veut dire qu'on est capable de faire des sacrifices et faire des choix. Si on est passionné, on est capable de partir à l'autre bout du monde parce que notre métier nous passionne et parce qu'on est convaincu que c'est la bonne chose à faire.
À moi, le salaire, je m'en fous. C'est-à-dire que quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit le salaire, je m'en fous. Évidemment que je travaille dans les parcs d'attraction en général. Et oui, forcément, le salaire, je m'en fous. Même si je dois déménager, me taper 4 heures de route, je le ferai.
Ah oui, là, on en a des vrais de passionnés. Hein. Anne-Claire, une réaction peut-être, les gens, là, dans ce que vous avez entendu. Alors, c'est qu'un échantillon, mais vous pensez qu'ils cernent bien les tenants et les aboutissants du métier passion ?
Oui, on retrouve le côté que moi je pouvais avoir aussi au début d'exaltation. On est complètement exalté et on pourrait même payer pour travailler, pour avoir la chance d'exercer cette profession qui nous fait tant rêver.
C'est dingue. Fabienne, comment on fait justement pour pas être désillusionnée par un métier passion ? Surtout, je pense pour les jeunes qui nous écoutent, Il faut faire quoi ? Des recherches en amont sur la réalité des jobs ? Est-ce que c'est pas mal aussi de faire des stages peut-être ?
Oh que oui, je pense que les stages c'est vraiment chouette parce qu'on se rend compte en côtoyant des gens qui exercent ce métier, des journées, qu'est-ce que c'est, etc. Enfin, on se rend compte vraiment des missions concrètes. Donc allez échanger et vous pouvez aussi vous servir de réseaux sociaux type LinkedIn. Si vous connaissez pas quelqu'un qui travaille dans ce secteur-là, allez voir un petit peu pour échanger, pour avoir la réalité du terrain. C'est sûr. Et il n'y a rien de mieux, même quand on veut se reconvertir, de faire par exemple ce qu'on appelle une enquête métier pour aller concrètement voir comment ça se passe au quotidien et pas comment on imagine les choses.
Que ça se passe. Anne-Claire, justement, vous, votre premier stage, il s'était bien passé, vos premiers CDD aussi. À ce moment-là, au démarrage de votre carrière de journaliste, vous étiez plutôt confortée dans votre idée, ce métier passion, il est fait pour moi.
Ah bien sûr, oui, j'étais absolument convaincue et je voulais... c'était un peu le quoi qu'il en coûte, quoi. J'y suis, j'y reste c'est limite mystique, hein. C'est une foi, un appel où on veut exercer ce métier qui nous fait tant rêver et tout au début est génial,
c'est dingue.
Au-delà de génial.
Anne-Claire, est-ce que c'est vraiment votre métier en tant que tel qui vous a amené au burn-out ou plutôt les conditions dans lesquelles vous l'exerciez parce qu'il n'y avait pas de stabilité, des conditions qui étaient assez précaires, qu'est-ce qui vous a mené à bout en réalité ?
Je dirais que c'est un mélange, en fait. Un mélange, effectivement, sur la durée. Moi, j'étais ce qu'on appelle pigiste. Donc, j'étais payée à l'article. Mais cet employeur, j'avais un employeur où je voulais absolument être embauchée. Donc, j'étais obligée d'aller chercher du travail. Mon salaire, c'était un tableau impressionniste avec plein de petites touches de salaire que j'allais grappiller à gauche, à droite. Et ça, sur la durée, c'est épuisant.
Épuisant, non ?
L'instabilité financière sur la durée est épuisante. Mais encore une fois, au début, la précarité, on l'accepte de bon cœur parce qu'on nous a prévenus. On sait où on tombe. On s'est renseigné. On n'est pas né de la dernière pluie.
Mais vous aviez espéré que cette précarité ne le soit plus au bout de quelques années, surtout. On espère,
temporaire, oui, ouais. On espère. On se met des échéances, mais qu'on reporte tout le temps aussi, parce qu'on est encore dévoré et très épris de ce travail.
Fabienne, cette précarisation du travail qui n'est pas uniquement présente dans le secteur du journalisme, dans d'autres métiers passion, qu'ils soient artistiques ou autres, c'est le cas. Et on la déplore de plus en plus ces dernières années. C'est ça qui a fait mal, qui fait mal à ces salariés, même très passionnés, justement.
Oui, ça peut jouer parce qu'en fait, là où c'est le plus compliqué, en fait, c'est quand il y a un décalage entre la manière dont on voudrait exercer le métier et la réalité au quotidien. Ça peut être quand on est freelance et on se dit, je vais le mettre à mon compte, youpi. Et puis en fait, on se rend compte que oui, il y a une grande précarité, et notamment au début. Mais ça peut être aussi, je pense, aux enseignants, aux infirmiers, aux infirmières, aux médecins, quand on n'a pas les moyens d'exercer le métier comme on le voudrait. Et du coup, on a la vision du métier passion, je suis utile à l'école, à l'hôpital. Et en fait, au quotidien, non, je ne m'y retrouve pas du tout parce que j'ai l'impression de ne pas bien faire mon travail. Donc oui, cette précarité, ça peut être en termes de salaire, mais ça peut être aussi en termes de conditions, de ressources. Et du coup, quand il y a ce fossé très important, c'est encore plus compliqué à vivre. Et oui, ça peut mener au burn-out.
Au burn-out. D'ailleurs, on va continuer votre histoire. Anne-Claire, c'est un peu comme une histoire d'amour, hein. Qui finit mal, vous avez connu une rupture professionnelle parce qu'on vous a fait miroiter un CDI, mais finalement on a préféré le donner à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est là précisément que la passion s'est transformée en poison pour vous ?
Oui, complètement. Ça a été la grande désillusion où en fait je me suis rendu compte qu'on était que c'était une entreprise pour laquelle je produisais tous les mois des articles et qu'en échange la relation était inégale et viciée et qu'elle ne respectait même pas le code du travail puisqu'au bout de 6 ans normalement on est embauché
ouais. Mais là on vous a dit au revoir, merci bien.
Non, on m'a pas dit au revoir, on m'a dit
tu peux
continuer à travailler pour nous.
On stabilise quelqu'un d'autre que toi.
Voilà.
Ouais. Fabienne, sur votre site My Happy Job, vous parlez beaucoup de QVT, qualité de vie au travail. Est-ce que c'est un critère qu'on devrait davantage prendre en compte justement quand on s'oriente vers un métier passion ?
Oui, tout à fait. Et je pense que les gens le font de plus en plus. C'est-à-dire qu'en entretien, pour vous donner un exemple très concret, les recruteurs le disent aujourd'hui. Avant, on demandait est-ce qu'il y a du télétravail ? Aujourd'hui, on demande comment vous fonctionnez avec le télétravail ? Est-ce que c'est un jour, deux jours, trois jours ? Parce que les gens sont en quête d'un meilleur équilibre de vie, par exemple. Donc oui, tout à fait. Et sur le podium, le salaire compte quand même. On est en période de crise aussi. Donc il y a le salaire, la qualité de vie. Et après, chacun aura son facteur prédominant, un métier passion. Pour d'autres, ce sera d'avoir du temps en dehors de son métier. Mais oui, je pense que c'est important si on veut que ça dure, si pour que on puisse faire voilà performer de manière durable. Oui, il faut prendre en compte la qualité du travail, le bien-être au travail pour que ça tienne la route sur le long terme.
Eh bien, merci à toutes les deux. On va revenir avec vous dans quelques minutes. On va continuer à parler de ces métiers passion. Comment faire pour qu'ils ne se transforment pas en métiers poison. D'ailleurs, on ne s'en rend pas toujours compte qu'un métier qu'on adore nous détruit. Alors, on va vous préciser sur Europe 1 quels sont les signes qui doivent donner l'alerte.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez, il est 11h30 et on vous détaille ce qui fait un métier passion ce matin. Alors surtout, comment éviter qu'il ne nous détruise à petit feu, car c'est un risque parfois. On fait le point avec la journaliste Anne-Claire Gentilhon et Fabienne Broucaré, conférencière, créatrice du site My Happy Job. Anne-Claire, il y a un point que vous abordez aussi dans votre livre, c'est la limite entre le travail et la vie privée. Pour vous, c'était une frontière quasi impossible à maintenir. Hein, pour commencer, vous travailliez à l'époque chez vous, donc vous viviez dans votre bureau en fait, et ça a compliqué sévèrement les choses.
Oui, bah, j'avais semé des miettes de travail un peu partout dans mon appartement parce que j'avais les appartements parisiens n'étant pas extensibles, j'avais pas de bureau à proprement parler et donc j'ai essayé toutes les configurations de mon lit, de la table de la cuisine et forcément il y a plus de frontières. La frontière entre vie personnelle et vie professionnelle est inexistante.
Fabienne, on vous avait reçu hein, dans l'émission pour parler de la bonne façon de télétravailler, parce qu'effectivement, ça peut paraître idéal hein, de bosser chez soi, mais il y a des pièges, comme j'imagine faire des journées à rallonge, être son propre tortionnaire. La limite est vite franchie, non ?
Oui, on l'a remarqué beaucoup hein, pendant les confinements, c'est-à-dire que la crainte, c'était que le télétravail, les gens ne travaillent pas. Et non, en fait, les gens se sont surengagés et c'est un des risques, en effet, du télétravail qui est bien connu aujourd'hui. Donc l'important, c'est de se mettre un cadre, de faire des pauses régulièrement, de ne pas zapper la pause déjeuner, de ne pas passer sa journée en visio et en s'asseyant de 8h à 20h. Et il y a un autre travers aussi, c'est la sédentarité qui va de pair avec. Hein, c'est-à-dire que quand on va au bureau, on marche beaucoup plus. Ouais. En télétravail, on a tendance à rester très assis. C'est non seulement pas bon pour la santé, mais c'est pas bon aussi pour être efficace tout simplement au travail. Donc faut trouver de nouveaux rituels. Je dirais que la clé, c'est vraiment de se dire que la journée en télétravail ne doit pas ressembler typiquement à la journée au bureau et de prendre d'autres temps pour vous et de les noter dans votre agenda. Et c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on doit être dispo H24. Non, il y a le même cadre, même si c'est à distance.
Anne-Claire, on a entendu tout à l'heure dans le micro-trottoir les gens qui disaient « Moi, si je faisais mon métier passion, je m'en fiche de la paye. » Enfin bon, bref, quand même, c'est une réalité. À un moment donné, il faut quand même payer son loyer. Et vous, l'argent, ça a été longtemps un problème dans ce métier. C'est que le métier passion, il paye pas toujours et pas tout de suite. Hein.
Le métier passion, elle ne va pas payer tout de suite, mais, ou même parfois jamais. Mais au début, on l'accepte de bon cœur. La précarité fait partie du package au final, parce qu'encore une fois, on considère qu'on a une chance d'exercer ce métier où on en viendrait presque à payer pour avoir la chance de l'exercer. Après, ce qui est dur à tenir sur la durée, c'est la stabilité, l'instabilité financière, parce que ça vous met dans une situation de vie empêchée, où tous les projets les plus personnels au plus futile sont reportés parce que vous avez foncièrement jamais les moyens où tout va paraître la moindre dépense va paraître dérisoire.
Mais quand c'est le métier passion, on s'acharne, quoi, on s'accroche, quoi, malgré cette réalité là hein, c'est ça Fabienne Broucaré, un métier passion, ça paye pas toujours hein, il faut savoir en sortir.
Exactement, il y a de tout hein, dans les métiers passion, il y a des gens qui vont très bien gagner leur vie mais qui vont peut-être aussi se perdre parce qu'ils vont trop travailler et oublier la vie à côté, et d'autres en effet où on garde toujours cet espoir de se dire que ça ira mieux l'année prochaine et que ça vaut le coup de faire des sacrifices pour y arriver. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où il faut trouver où on met la limite.
D'ailleurs, Fabienne, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens hein, qui nous écoutent et qui se disent « Moi, j'aime bien mon boulot, mais c'est pas non plus une passion. » Est-ce que c'est grave d'avoir un métier, de ne pas avoir de métier de passion en tête? Ça veut dire quoi? Qu'on est quelqu'un de terne ou qu'on manque d'élan vital?
Mais pas du tout. Et déjà, pour moi, on n'exercera pas qu'un métier dans nos vies. Donc, on aura plusieurs vies. Donc, votre métier actuel vous permet peut-être de faire autre chose. Vous avez peut-être d'autres passions dans la vie et ça vous libère du temps pour vos soirées ou vos week-ends. Vous travaillez peut-être à temps partiel, vous avez peut-être une autre activité en parallèle du bénévolat ou votre vie de famille tout simplement qui vous épanouit. C'est-à-dire que le travail, c'est qu'est-ce qu'on y met, quelle place vous lui donnez. Si le travail est important pour vous dans votre vie, tant qu'à faire, autant qu'il ait du sens.
Et attendez, Fabienne, ça peut changer aussi dans une vie. Mais ça peut être important quand on est jeune, un peu moins après, ou l'inverse d'ailleurs.
Tout à fait, parce que quand on devient parent, quand à l'inverse les enfants partent de la maison, quand on a des envies parfois de se dire bah, on démarre, je me donne à fond et après... Donc oui, c'est totalement évolutif et c'est des questions à se reposer aussi. Hein. Est-ce que je suis bien dans mon travail? Est-ce que j'ai des envies de changement?
Est-ce que je donne la bonne place à mon travail et dans ma vie en général?
Exactement. Quelles sont mes priorités au-delà de mon travail?
Tous les 10 ans au moins, posez-vous la question.
Exactement, ça ne fait pas de mal. Ça ne peut pas faire de mal de se poser ces questions.
Anne-Claire, vos problèmes de travail se sont même immiscés dans votre vie de couple, parce que je crois que vous parlez de même de ménage à trois, de relations toxiques. Ça a mis votre relation avec votre conjoint à mal, hein, je crois.
Disons que c'était comme si j'avais, invité mon amant, qui s'appellerait Boulot, à venir vivre chez nous.
Et donc, votre mec, il ne devait pas être très content.
Mon mec étant journaliste, lui aussi, au début, il comprenait. Il comprend, au début, c'est facile aussi, parce qu'on comprend tous les deux les sacrifices, tout ce qu'il en coûte pour exercer ce métier qui nous fait tous les deux rêver. Mais au bout d'un moment, ça crée des problèmes, ça crée des incompréhensions, ça crée... pareil, les priorités dans la vie, si quelqu'un, l'un des deux dans le couple se stabilise, l'autre est plus à la peine, ça crée des incompréhensions aussi. Et on n'est pas, à des moments, on n'est pas raccord. Voilà.
Fabienne, quand on est témoin de quelqu'un qui se détruit dans un métier passion, comment on peut l'aider à ouvrir les yeux ou à faire, je sais pas, des bons ajustements dans son lien au travail, justement?
Alors, c'est pas facile qu'on soit collègue ou encore plus peut-être à la maison conjointe. Déjà, c'est de se dire de pas être dans le reproche, mais dans le factuel. J'ai remarqué que tu étais fatiguée, j'ai remarqué que tu avais changé d'humeur, qu'il y a des changements comme ça qui peuvent être corporels, émotionnels, tu as peut-être des pertes de mémoire, tu es fatiguée. Voilà, essayer de percevoir ces signes-là. Ensuite, c'est pas à cette personne-là d'être le sauveur ou la sauveuse et de se dire qu'il va trouver la solution parfaite. Par contre, ça peut être d'orienter vers un tiers. Si on sent que la personne est proche du burn-out et que ça va pas, on peut lui conseiller d'aller voir son médecin traitant, d'aller voir un psychologue. Si la personne est en entreprise, parce qu'on peut faire un métier passion en étant en CDI et dans une entreprise, c'est de se dire peut-être approche-toi de la médecine du travail, de l'ARH, va parler à ton manager et ta manageuse pour peut-être recadrer un peu les choses. En tout cas, c'est de se dire que d'essayer de faire passer des messages, et c'est pas facile quand on est peut-être au cœur d'un couple, par exemple, parce que forcément, ça crée des frustrations, des fois de la colère de l'autre côté, donc il faut aussi savoir faire preuve de diplomatie, et sur le long terme, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, c'est d'essayer d'orienter et vraiment d'essayer de voir les signes et de montrer à la personne peut-être pour essayer d'avoir un peu un déclic.
Anne-Claire, vous étiez donné un délai pour être journaliste accompli, embauché en CDI, tout ça? Est-ce que vous étiez dit, bon, à telle date, là, si vraiment ça ne marche pas, j'arrête? Je ne sais pas, est-ce que d'ailleurs ça passe par ça, peut-être d'éviter de se brûler les ailes?
Alors oui, je m'étais donné des dates butoirs, mais que je repoussais tout le temps, parce que c'était aussi un aveu d'échec, et que c'est très compliqué de se dire, j'y arrive, mais pas tout à fait, où je suis vraiment, on est convaincu qu'on est au seuil de la réussite.
Et que ça serait trop dommage d'arrêter maintenant,
voilà,
après tous ces efforts.
Exactement.
Et est-ce qu'on peut vous demander ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous faites un autre job de rêve? Est-ce que vous êtes toujours animée par une quête de passion professionnelle?
Alors aujourd'hui, j'ai pas renversé la table, j'ai pas changé de profession, je suis toujours journaliste.
Vous testez pas des toboggans?
Voilà, non, et je travaille pas non plus dans un parc à grandes oreilles, mais je travaille pour une société de production audiovisuelle et j'exerce, j'aime beaucoup ce que je fais. Après, la vie personnelle m'a rattrapée. J'ai deux enfants aujourd'hui, donc ça contribue aussi à remettre le travail à sa juste place. Je reste quelqu'un d'impliqué parce que je pense que ça fait partie de ma personnalité, mais je n'ai pas une identification démesurée à ce que je fais.
Fabienne, pour terminer, peut-être un conseil pour nos auditeurs qui se posent la question de se diriger ou pas vers un métier passion. Comment on évite de rentrer dans un métier poison, pour le coup? Votre meilleur conseil, ça serait quoi?
De poser un cadre et de voir vos priorités au-delà du travail. Exercer un métier passion, c'est chouette, mais c'est quelles sont vos priorités dans la vie, et de vous reposer régulièrement ces questions-là. Et vraiment d'avoir ce temps d'introspection-là. Et un des grands signes aussi, c'est de vous dire si vous attendez avec trop démesurément les week-ends, les vacances, en vous disant mais ça ira mieux dans 3 mois, dans 6 mois, l'année prochaine, et puis qu'en fait on se rend compte que les années passent, c'est peut-être qu'il faut agir avant de se prendre le mur un peu trop violemment.
Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation ce matin et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre livre, Anne-Claire Gentilhon, Le piège du métier passion, aux éditions Alizio. Merci encore. Eh bien voilà, on va changer de sujet, Mélanie, à présent, on passe à quoi ?
À notre séquence avec nos bienfaiteurs, avec Jérémy Cohn, spécialiste des questions de savoir-vivre. On va parler de champagne, mais aussi d'un geste un peu désuet et assez amusant, le baise-main. Et puis pour les messieurs qui nous écoutent et qui portent la barbe ou songent à la laisser pousser, surtout restez bien à l'écoute, car Benjamin Lévesque a des tas de conseils à partager avec vous pour la soigner, cette barbe. À tout de suite sur Europe 1.